Nous allons donc étudier aujourd'hui ce que j'ai appelé la danse des anges, car très souvent, des saints ou des saintes ont eu le privilège de voir danser les anges au milieu de leur communauté. Ainsi en fut-il de sœur Myriam de Jésus crucifié, cette petite galiléenne qui a eu tous les charismes possibles et imaginables. Ainsi en est-il de saint Séraphin de Sarov, ce merveilleux orthodoxe tant aimé de nos chrétiens d'Orient. C'est tout à fait l'exception. Normalement, nous ne voyons pas les anges au milieu de nous, mais ils sont là. Je rappelle tout d'abord que l'existence des anges est un dogme, c'est-à-dire une vérité à laquelle l'Église nous demande de croire sans hésiter. D'ailleurs, vous n'y pensez peut-être pas, mais chaque fois que vous récitez le credo de Nicée, le grand credo qu'on récite souvent à la messe, vous parlez des anges deux fois. Je crois en Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Pour le credo, le ciel, c'est le ciel des anges, et le monde invisible, c'est le monde invisible des anges. Donc c'est une vérité incontestée dans la grande tradition de l'Église, même si aujourd'hui, je le sais, elle est contestée par certains chrétiens qui disent qu'on ne peut plus, à l'époque actuelle, croire à ces choses-là. C'est un dogme qui a été plus spécialement énoncé dans le grand concile du Latran, du 1215, ce concile qui est à l'origine, au début du XIIIe siècle, celui qui a autorisé les dominicains et les franciscains à se répandre en Occident, un texte qui a été repris par le concile Vatican I. L'Écriture ne nous révèle que trois noms d'anges, Raphaël, Gabriel et Saint-Michel. Je pourrais commencer par une histoire qui a été racontée récemment dans notre diocèse par le père de Robert, un prêtre fort sympathique et bien dans ses baskets, comme on dirait, qui ne paraît pas du tout mystique, et qui a été fils spirituel du Padre Pio. Vous savez que le Padre Pio a adopté comme ça un certain nombre de personnes, et spécialement de séminaristes ou de prêtres, dont il a fait ses fils spirituels. Et alors qu'il était encore séminariste à Rome, le jeune Jean de Robert, par curiosité et surtout pour aller porter un colis qu'on lui avait demandé de remettre au Padre Pio, est allé là-bas dans le sud de l'Italie. La coutume veut que les ecclésiastiques bénéficient d'un passe-droit pour se confesser. Je me trouvais donc à la 5e place dans la file d'attente des pénitents. J'attendais avec une certaine anxiété. En effet, par moments, le père enflait la voix, se mettait à crier « Combien de fois ? Pourquoi as-tu fait cela ?» Parfois, il chassait un pénitent « Via ! Va chercher un autre confesseur. » Je prends place au confessionnal. « Père, je suis français. Bene. Qu'as-tu fait ?» me demande-t-il en latin. « Parlez italien, père, je le comprends. Bene. Cosa hai fatto ?» Je ne sais pas. Puis, commençant à perdre contenance, je m'énerve. « Père, j'ai fait ceci, cela. »« Oui, c'est vrai, mais cela a été pardonné vendredi dernier. » Et c'était la stricte vérité. « Mais tu oublies telle et telle chose. » Il y a 2 ans, dans tel endroit, pourquoi as-tu fait cela? Et vero! Les larmes aux yeux, il m'a montré la gravité de certaines actions, gravité à laquelle, à vrai dire, je n'avais jamais songé. Mais à ce moment, à les entendre expliquer de la bouche du Padre Pio, elles prenaient pour moi leur véritable dimension. C'est grave, et il se mettait à pleurer et à souffrir. J'étais très mal à l'aise, d'autant plus que tout ce qu'il disait était vrai. Il m'a même donné des détails exacts que j'avais totalement oubliés moi-même. Parfois, on agit par réflexe, sans même avoir le sentiment d'une culpabilité quelconque. Il me donne l'absolution, puis il me dit « Tu crois à ton ange gardien ?»« Je ne l'ai jamais vu. » Me fixant de son œil pénétrant, il m'administre une retentissante paire de gifles et laisse tomber ces mots « Regarde bien, il est là et il est très beau !» Je me retournai et je ne vis rien, bien sûr, mais le père, lui, avait dans le regard l'expression de quelqu'un qui voit quelque chose. Il ne regardait pas dans le vague. « Ton ange gardien, il est là, et il te protège. Prie-le bien, prie-le bien. » Ses yeux étaient lumineux, il reflétait la lumière de l'ange. Et c'est comme ça que Jean de Robert est devenu fils spirituel du Padre Pio. Et le Padre Pio, quelques heures avant sa mort, dans la nuit qui a précédé sa mort, il a fait le tour à travers le monde de tous ses fils spirituels pour leur dire au revoir. Le lendemain matin, le Padre Pio voit un élève du collège où il se trouvait, lui dire « Oh, nous avons appris par la radio que votre cher Padre Pio était mort ce matin. » Alors le père de Robert a compris pourquoi il avait reçu la visite du Padre Pio quelques heures auparavant. Voilà pour introduire mon sujet. Vous aimez tous le Padre Pio, je ne pense pas que vous le preniez pour un illuminé. Nous allons voir dans une première partie que les anges ont été créés immaculés, comme les démons dont nous parlerons la fois prochaine. Mais Dieu, je vous l'ai déjà dit, ne peut pas créer des libertés aussi parfaites que la sienne. Une liberté impeccable, ce serait une liberté divine. Les anges en sont un bel exemple. Malgré le caractère immaculé des anges, il y en a qui ont pris un mauvais virage, qui n'ont pas accepté leur condition de créature et qui sont devenus les démons, les mauvais anges, qui ont été créés aussi parfaits, aussi lumineux que les bons anges. C'est pas pour rien que l'un des démons, on l'appelle Lucifer, porte-lumière. Mais c'est par une grâce reçue de Jésus-Christ que mon ange gardien a pu faire le bon choix. Ce n'est pas par leur propre force. Je vous ai souvent cité cette réflexion théologique du père de Lubac. Il y a des choses que nous devrions faire qui sont dans la nature de l'homme ou de l'ange et que nous n'arrivons pas à faire. C'est à la fois naturel et surnaturel. C'est la moindre des choses quand on est une créature de Dieu, de reconnaître sa condition de créature, mais en fait, ça nous dépasse. Ça dépasse les forces d'une créature. Et c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles le Verbe de Dieu s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie et qu'il est né à Noël. Il est venu faire ce que les créatures ne savent pas faire par elles-mêmes. Donc, c'est par l'homme Jésus, par l'Esprit Saint répandu par la sainte humanité de Jésus-Christ, que les anges ont fait le bon choix. Certains pères de l'Église, mais ça ce n'est pas un dogme, pensent même que si certains anges sont devenus démons, c'est qu'ils n'ont pas voulu recevoir leur grâce d'un être inférieur à eux au point de vue ontologique, un homme, car l'intelligence d'un homme est inférieure à une intelligence angélique. Je ne sais pas si mon ange gardien fait de la physique, ça m'étonnerait, mais il est plus intelligent qu'Einstein. Une intelligence angélique est une intelligence extraordinaire. Et les anges sont sauvés par Jésus. Ce n'est pas pour rien qu'ils s'inclinent à la crèche devant le petit Jésus, car tous les bons anges savent que c'est par lui qu'ils peuvent chanter la gloire de Dieu. Les anges, tout d'abord, font partie en quelque sorte de la cour de Dieu. Non pas que Dieu veuille avoir une armée de gardes républicains rendant sans cesse les honneurs devant son trône céleste, mais il a voulu donner à des milliards, car ils doivent être des milliards, des milliards, des myriades, il a voulu donner à des myriades d'anges la possibilité de le contempler éternellement face à face. Dans chacune de nos eucharisties, nous nous associons à leur adoration en évoquant la vision au cours de laquelle Isaïe reçut sa mission prophétique. Vers l'an 740 avant Jésus-Christ, Dieu lui apparut, adoré par tous les séraphins du ciel, chantant « Sanctus, Sanctus, Sanctus ». Pourquoi trois fois saint? Parce que en hébreu, il n'y a pas de superlatif pour dire de quelqu'un qu'il est grand. On dit qu'il est grand, grand, grand. Pour dire de Dieu qu'il est saint, qu'il est le tout autre, on répète trois fois l'adjectif. Et nos liturgies sont une participation à cette liturgie céleste. Dans chaque Eucharistie, que ce soit dans une messe de mariage, dans une messe de funérailles, on rappelle que c'est avec les anges et les saints que nous chantons ce Sanctus. Bien des saints, d'ailleurs, ont joui du privilège de voir les anges s'unissant par la danse et le chant à la liturgie de leur communauté. Les psaumes nous rappellent d'ailleurs régulièrement que c'est avec eux que nous chantons la louange de Dieu. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs, vous tous ses anges, louez-le, louez-le tous les univers, psaume 148. Ou encore, de tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce, tu as entendu les paroles de ma bouche, je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. Quand vous entrez dans une église, vous ne devriez jamais oublier que l'église, elle est pleine de la présence des anges. Et nous entrerions autrement dans toutes les chapelles, dans toutes les églises, si nous y pensions. Dans l'art baroque, on nommait jamais de mettre des petits angelots tout près du tabernacle pour rappeler cette mystérieuse présence des anges dans toutes nos églises. Je pense à ce prêtre rescapé d'un camp de déportation et qui, sur ses vieux jours, célébrait la messe presque toujours tout seul dans une église très glaciale l'hiver. Alors, l'une de ses filles spirituelles lui dit, mon père, ça ne doit pas être drôle de célébrer la messe comme ça, tout seul, dans cette église qui n'est pas chauffée du tout. Oh, mes chers enfants, cette église n'est pas vide. Chaque fois que je célèbre la messe avec les anges. Vous savez que nos frères d'Orient, pour ne pas l'oublier, dessinent toujours dans la coupole qui surplombe l'autel toute la danse des anges qui participent à la liturgie du ciel et de la terre.